Vous écoutez Flat Film Radio, Bénédicte Pro, je suis sur le Lido pour la 72e Mostra de Venise et j'ai aujourd'hui le plaisir de rencontrer Xavier Jannoli qui présente en compétition Marguerite avec Catherine Fro dans le rôle d'une dame de la haute société qui se prend pour une cantatrice et qui chante absolument faux et qui en même temps est une femme extravagante tout à fait attachante. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Parlez-nous un peu de la jeunesse du projet.
Alors tout a commencé quand j'ai découvert le destin, à mon avis extraordinaire, de cette femme qui a vraiment existé, qui s'appelait Florence Cressot Jenkins, qui était une américaine et qui chantait complètement faux. Elle était riche mais très généreuse et elle voulait partager sa passion avec ses amis mélomanes, sauf que jamais personne ne lui a dit qu'elle chantait complètement faux. Et elle a passé sa vie à donner des spectacles jusqu'au Carnegie Hall à la fin de sa vie, imaginez, dans une gigantesque salle, en chantant complètement faux. Et c'était très drôle et en même temps très vite je me suis dit que les déraillements de sa voix qui sont, je l'espère, je crois, hilarants, d'ailleurs on peut l'écouter sur internet, il y avait sûrement autre chose à conquérir, que c'était aussi sans doute le signe des déraillements et des blessures de son cœur, et du coup je me suis dit que ça allait être un portrait de femme. Dans la vie c'est difficile de trouver la distance avec ce que notre vie peut avoir de ridicule, de burlesque, de drôle et aussi de tragique et de douloureux. Et pour moi, faire du cinéma, c'est vouloir rendre compte d'une expérience humaine la plus intéressante, complexe et originale possible. Donc le destin extraordinaire de cette femme, je crois, est à la fois hilarant et comique, et en même temps, il y a quelque chose de douloureux et de tragique.
Mais j'ai trouvé ça, ce paradoxe, très intéressant, parce qu'en effet, pendant le film, on rit beaucoup, en même temps qu'on est très touché. Et elle est ridicule et géniale, comme le dit Van Priest. Et en même temps, elle devient bizarrement une muse pour un tas d'hommes, cet artiste, son domestique.
Absolument, c'est ça qui était drôle, c'est qu'en fait, elle chante faux, mais en fait, quand on la voit dans le film, on finit par se rendre compte qu'elle est vraie et qu'autour d'elle, il n'y a que des gens qui trichent et qui mentent. Et cette vérité, cette sincérité, son excentricité, son énergie extraordinaire, sa générosité finissent par en faire une muse, finissent par en faire celle qui gagne, finissent par en faire un modèle. Et ce qui était drôle pour moi, c'était que celle qu'on commence par juger comme une pauvre folle excentrique qui se ridiculise en chantant faux, non seulement elle finit par, je crois, devenir un personnage tragique et émouvant, et en plus elle finit par devenir un modèle pour des artistes avant-gardistes de l'époque qui voient dans sa démarche une folie et en même temps une liberté et une insolence qui est la marque des grands artistes.
Ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression qu'elle est tout à fait consciente de cette mascarade. Et d'ailleurs, elle se sent très bien parmi ce groupe de freaks avec la femme à barbe et dans ce spectacle d'avant-garde, même si elle même n'est pas forcément au courant de ce qui se passe tout à fait. Et j'ai remarqué dans l'interview finale, la fausse interview qu'elle donne, où elle dit beaucoup « si vous voulez », puis elle dit « c'est difficile de faire semblant, de ne pas faire semblant ».
Voilà, absolument. Elle dit quelque chose qui est sur l'illusion du spectacle. À la fin, elle dit « c'est un drôle de métier ». De faire semblant, de ne pas faire semblant. C'est le métier des acteurs sur scène, au cinéma. On fait semblant de ne pas faire semblant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pouvoir d'illusion du cinéma, où des acteurs jouent et en même temps, ils veulent donner une sensation de vérité et d'émotion. Et que c'est le mystère même de l'art, qui est une représentation, une illusion, et en même temps, ça doit nous parler au cœur et nous émouvoir avec quelque chose d'une vérité humaine. Je crois que on vit dans les années 20 comme aujourd'hui. C'est un problème éternel qui est celui de la vérité et de l'imposture. Autour de moi, je vois beaucoup de gens dont je me dis qu'ils ne méritent pas les postes qu'ils ont, qu'ils ne méritent pas le succès qu'ils ont, qu'ils ne méritent pas la reconnaissance qu'ils ont. Et c'est ça qui m'intéresse. Les premiers auxquels je pense, ce sont les politiques. Et que quelque chose qui m'intéresse, c'est cette tension entre la représentation sociale, l'illusion sociale, le mensonge social, la vérité humaine, notre besoin de vérité, notre besoin d'être au contact de la réalité du monde et de ce que nous sommes. Et dans cette tension, il y a un enjeu qui me semble être éternel et qui est à la fois esthétique et politique, je crois. On n'a jamais à ce point-là, comme aujourd'hui, où les images sont obsédantes, vécues dans ce qu'on pourrait appeler la société du spectacle, où on est sans arrêt dans un bain de mensonges et d'illusions et qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui doit nous toucher, ce qui doit nous révolter. Et voilà, et donc évidemment que ce personnage, je l'écris à ce moment-là aussi, avec quelqu'un dont on voit bien qu'il pose la grande question qui est à quoi est-ce qu'on peut croire encore ?
Dans Marguerite, l'illusion vient aussi du public, puisqu'il y a le faux public, et puis il y a les claqueurs qui sont là pour huer ou applaudir les artistes qui sont sur scène.
C'est ma réplique préférée du film « Mon grand-père a sifflé Victor Hugo ». Une pièce magnifique, d'ailleurs. C'est vraiment les deux répliques que je préfère dans le film. C'est pas pour faire l'intéressant que je dis ça, hein, parce que c'est le génie des acteurs avant d'être mon talent d'écriture. C'est quand Catherine dit mais l'argent n'a aucune importance, l'important c'est juste d'en avoir.
Ah oui, celle-là, j'allais justement parler, elle est géniale.
Voilà, où c'est juste drôle et puis on voit que son rapport est très pur. Voilà, d'ailleurs elle est là, Catherine, je la vois, quelle grâce. Voilà, et puis quand le claqueur nain dit mais tu sais que mon grand-père a sifflé Victor Hugo, une pièce magnifique d'ailleurs. On lui a acheté 40 kilos de tomates. Ça veut vraiment dire que peu importe que ce soit beau ou moche, voyons quels sont l'intérêt des gens.
Alors, parlons quand même de Catherine qu'on a vu passer, qui est tout à fait remarquable dans ce rôle. Comment l'avez-vous choisie ? Est-ce que vous l'aviez en tête ?
Oh, j'ai vu... quand j'écris, je ne pense pas à un comédien en particulier, ou une comédienne en particulier, mais au bout d'un moment, je passe tellement de temps avec le personnage à l'écrire, à l'imaginer en train de parler et de bouger, que j'ai l'impression que le personnage finit par me dire à l'oreille « tu devrais t'intéresser à telle actrice ». Et en fait, d'un coup, Catherine a été là avec son visage, et ce qui m'a frappé en photo, c'est que tout de suite je me suis dit « cette femme a un scintillement qui n'appartient qu'à elle, elle a quelque chose qui évoque l'univers de la comédie ». C'est une actrice très populaire en France pour la comédie et la drôlerie. Et en même temps, il y a dans son regard, si on prend le temps de l'observer, une profondeur, un trouble, quelque chose de féminin. Et que le personnage étant à la fois tragique et comique, je me suis dit que personne au monde ne pourrait mieux qu'elle jouer ce personnage. Mais d'ailleurs, elle ne le joue pas, elle le vit. Et je crois qu'il y a quelque chose de mystérieux de sa vie de femme qui a rencontré le destin de Marguerite. Et moi, comme metteur en scène, j'ai pas envie de savoir quoi. Mais j'étais stupéfait tous les jours de voir la vérité avec laquelle elle était Marguerite.
C'est la première fois que vous vous essayez à un cinéma un peu en costume.
Oui, mais le film est assez, le film est très épuré, je crois. Il est pas du tout dans la reconstitution et dans le. Moi, je n'ai pas voulu un pittoresque ou une complaisance idiote hollywoodienne à la reconstitution d'une époque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évocation de cette époque. Ce que ça peut avoir de beau et comment ça va proposer un monde pour le spectateur qui va être fait, c'est ce que j'ai voulu avec le chef opérateur, la lumière, les décors, les costumes, tout cela est dans une élégance que j'ai voulu, une tenue, une simplicité en même temps. Et je voulais que dans cet univers d'élégance, la voix de Catherine apparaisse comme une rupture, comme un coup de couteau dans un tableau. Voilà, et que cette tension-là m'intéressait pour le personnage.
Mais c'est aussi totalement jubilatoire en face du coup ce monde, c'est vrai que c'était une époque, les années 20 qui est comme ça, qu'on retrouve aussi dans la galerie de personnages masculins que vous avez créés. Comment se sont-ils greffés sur le personnage principal?
Vous savez, comme il est question du mensonge dans le film, puisqu'on a menti à cette femme toute sa vie, et peut-être que ça l'arrangeait d'ailleurs de croire à ce mensonge, elle a ignoré toute sa vie. Donc, ce qui m'intéressait, c'est que c'est une femme qui a été dupe toute sa vie. Elle a vécu entourée de gens qui lui ont menti. On ne s'entend pas chanter, donc elle ne savait pas qu'elle chantait faux. Donc, dans cet univers de mensonges, j'avais besoin que des seconds rôles apportent un sentiment de vérité. Et que tous les personnages autour d'elle vont d'abord incarner chacun une raison de lui mentir. L'intérêt, la cupidité, la cruauté, l'amour aussi d'ailleurs. Et en même temps, je voulais que ce soit fantaisiste et fou, et excentrique et drôle. Et que ça devienne, elle, une espèce de grand personnage excentrique qui est entouré d'une cour où il y a une femme à barbe, un nain, un professeur habillé avec des vestes chinoises qui lui parle de Mozart en lisant des revues érotiques. Voilà, et je voulais que le film propose un monde complètement excentrique et en même temps très réaliste, je crois. On y croit, c'est ça qui m'amusait.
Quand on voit tous ces personnages, on se dit que vous avez dû penser à Fellini.
Je pense tout le temps à Fellini. Fellini est un cinéaste qui m'a bouleversé. C'est du génie. Pardon de dire de telles banalités, mais j'ai l'impression qu'il a rassemblé tout ce qu'il peut y avoir de plus fascinant au cinéma. Le pouvoir de fascination des images, la critique sociale, la drôlerie et le burlesque, le tragique. Et c'est une sorte de metteur en scène total qui me fascine et qui me stimule. Après, quand on parle des personnages féliniens, il est évidemment influencé par la Commedia dell'arte, et donc il y a cette influence-là, vu que moi je parle en plus de l'opéra et de tout ça. Et il y a un autre film qui était important pour moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit que sa voix avait quelque chose de drôle, mais aussi de monstrueux. Et il y a un film qui me fascine, qui est Elephant Man, de David Lynch. Et je me suis dit, là, ça va pas être Elephant Man, ça va être Elephant Voice. Et que finalement, sa laideur et la monstruosité de sa voix finissent par être le signe de son humanité et de sa grâce, et que ça a été quelque chose d'important pour moi.
La musique est toujours très présente dans vos films.
Quand je pense à la musique, la première chose que je vois, c'est mon père debout sur une chaise dans la cuisine, qui chantait des chants corses, de l'opéra. Il était journaliste et très drôle, et il aimait chanter. Et donc je pense que c'est lié à ça, à quelque chose de l'enfance, où c'était des moments en famille où on écoutait mon père chanter. Et on riait, je chantais avec lui. Et donc si j'ai fait Quand j'étais chanteur et ce film-là qui aurait pu s'appeler Quand j'étais pas chanteuse, en fait, voilà, je pense qu'il y a un lien à la musique qui est aussi parce que la musique et le cinéma entretiennent un rapport poétique et d'une puissance extraordinaire, où quelque chose des images se déploie dans l'émotion et dans la force quand on arrive à trouver la bonne musique avec les images. Donc pour moi, la musique m'offre un monde d'émotions, quelque chose qui échappe au langage et aux mots, et qui communique une humanité, une vérité, et qui en même temps offre une ouverture sur un autre monde.
Merci beaucoup, Xavier Jeannelly.
Merci.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.